faire un peu l'histoire de l'Alliance et voir comment Dieu a éduqué son peuple pour vraiment vivre cette alliance d'amour avec lui, eh bien c'est un peu une gageure parce que c'est l'histoire de toute la Bible. Je vais prendre sa Bible qui est là. Mais je vais juste prendre quelques points pour montrer comment Dieu a éduqué son peuple. Dieu est un pédagogue extraordinaire et au fond, il veut notre bonheur. Et l'Alliance, c'est vraiment pour le bonheur de l'homme. Alors, on peut commencer, comme Monique l'a évoqué, avec le texte de la création avec Adam et Ève. Que fait Dieu ? Eh bien, il donne la création entière à l'homme avec un mode d'emploi. Et un mode d'emploi qui n'est pas du tout une restriction, mais qui est le mode d'emploi pour la vie. Si vous touchez à cet arbre, vous allez mourir. Alors, s'il vous plaît, n'y touchez pas. Et dès le début, il y a ce désir de l'homme d'être quand même aussi bien que Dieu, d'avoir pouvoir sur lui-même, de ne pas dépendre et de ne pas vivre en alliance, hein, d'être lui-même autonome. Et Adam et Ève, bon, on connaît le récit, ils mettent la main sur le don, ils prennent le don parce qu'ils veulent en être eux-mêmes le propriétaire et le gérer comme ils le veulent et connaître le bien et le mal et décider eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, et ils tombent hors de l'alliance, ils se mettent hors de l'alliance. Alors, dans le texte, rappelez-vous, je n'ai pas le temps de reprendre tous les textes, mais vous les connaissez, mais la tristesse de Dieu, Dieu qui se promène le soir, hein, et qui voit qu'Adam et Ève se sont cachés, qu'est-ce qui se passe ? Et le récit montre la tristesse de Dieu de voir que l'homme s'est éloigné. Et que l'homme a refusé son alliance. Mais dès le début, il y a aussi cette promesse. Eh bien, je vais réparer les choses. Je vais vous faire une alliance nouvelle avec la femme qui engendrera un enfant. Et dès le début, je dirais, si Dieu donne, il y a quelque part le refus et la mainmise de l'homme sur le don. Et puis, chaque fois, et on verra à travers toute l'histoire de la Bible, chaque fois, Dieu invente, trouve des moyens. Il a une ingéniosité incroyable pour reprendre l'alliance avec son peuple et pour redonner à son peuple le chemin du bonheur et de l'alliance avec lui. Et c'est étonnant de voir qu'au début de l'histoire d'Israël, Israël pense ses relations avec Dieu sous le signe de l'alliance, mais qui est une alliance. Le modèle qu'ils ont, c'est l'alliance politique et militaire qu'ils font avec leurs voisins. Et ça, c'est le premier concept qu'ils ont de l'alliance. C'est vraiment comme une alliance politique où chacun s'engage et où celui qui donne et celui qui reçoit font, je dirais, un pacte dans lequel il y a des devoirs et dans lequel il y a aussi un don reçu. Mais Israël a une difficulté pour penser ça, c'est qu'il a une très haute idée de Dieu et que l'homme, il n'est que l'homme. Alors quelque part, il y a quand même une disparité dans le contrat bilatéral qu'est l'alliance. Et pour Israël, dès le début, l'alliance est une pure grâce. Elle est le fruit de l'amour de Dieu. Dès la création, c'est Dieu qui donne. Hein, ce n'est pas l'homme qui demande. L'homme est créé et l'homme reçoit. Et elle est pour le bonheur. C'est chaque fois un chemin de bonheur qui est offert à l'homme. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et c'est très beau, hein, cette carte. Parce que c'est Dieu si on veut, mais c'est l'homme là en dessous qui est à l'image de Dieu. Et nous sommes heureux et nous sommes dans le bonheur et dans notre juste relation avec Dieu au moment où nous acceptons cette ressemblance et où nous entrons volontairement et avec toute notre bonne volonté dans cette ressemblance avec Dieu. Ça, c'est le bonheur de l'homme. Mais c'est pas facile. Donc, Dieu est vraiment à l'origine. Hein? C'est lui qui a l'initiative et qui dit à Noé déjà, j'établirai une alliance avec toi. Et puis, je vais revenir un peu sur Noé parce que c'est un moment important. Et elle est gratuite. L'homme n'a rien fait pour mériter cette alliance. C'est Dieu qui, dans sa bonté, a voulu créer l'homme pour que l'homme participe à sa vie trinitaire qui est là et qu'il ait ce bonheur qui dépasse notre humanité, mais qui est inscrit en même temps au fond de notre être et de notre âme, qui est ce désir d'être uni à Dieu. Et en même temps, c'est vrai que cette alliance comporte certaines conditions. Et c'est ce que nous retrouvons dans la loi donnée à Moïse, qui n'est pas une loi qui est légaliste, enfin, hein, mais qui est une loi pour le bonheur, un mode d'emploi de la vie pour le bonheur. Et c'est intéressant de voir comme à Moïse, Dieu révèle d'abord son nom, « Je suis ». Hein? Et on sait bien que dans la Bible, révéler son nom, c'est révéler l'intimité la plus profonde de son être. Et Dieu le révèle et Dieu le donne. Il donne à l'homme cette possibilité de l'atteindre dans sa profondeur la plus grande. Et quand il dit « Je suis votre Dieu » et vous êtes mon peuple, Dieu se lie, Dieu se donne, hein, en toute liberté. Et à quoi s'engage l'un et l'autre, hein? Dieu s'engage dans l'alliance à protéger son peuple, à lui donner le bonheur, à lui donner un bonheur qui, à cette époque-là, est très souvent aussi un bonheur matériel, la terre où coule le lait et le miel. Et il s'engage aussi à assister son peuple, à être présent avec lui au moment des difficultés. Et le peuple, il s'engage à être fidèle à Yahvé, à respecter et à mettre en pratique ce mode d'emploi qu'il reçoit de la vie et que Dieu lui propose. Et pour cela, Dieu demande au fond au peuple de l'écouter, Shema Israël. Hein, c'est le fondement de la relation entre Dieu et le peuple, c'est l'écoute que Dieu demande au peuple. Mais écoute-moi et tu auras le bonheur. Et c'est intéressant de voir comme dans les textes du carême, mais surtout dans les premières lectures de l'Ancien Testament, tout le temps on retrouve ça. Hein. Vous ne m'avez pas écouté, vous vous êtes perdu, vous êtes loin de moi, et revenez à moi. Hein? Et c'est tout le thème vraiment de ce carême. C'est pour ça que c'est beau de se prendre ce thème aussi au moment du carême. Or, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le peuple, il ne va pas respecter cet engagement. Hein? Et c'est le drame de toute l'histoire de l'Ancien Testament. Deux, trois exemples. Adam et Ève, je viens de le dire, qui veulent mettre la main sur le don. C'est toujours ça, c'est mettre le don sur la main, ne pas rester dans la gratuité, ne pas rester dans le don reçu et vouloir soi-même être son propre maître et sa propre autorité. Et c'est ce qui se passe avec Adam et Ève et avec la tentation. Mais vous serez aussi intelligent que Dieu, mais vous connaîtrez le bien et le mal. Et la femme, la première, eh bien, elle entre dans cette tentation. Et comme je vous disais, la tristesse de Dieu quand il voit que l'homme et la femme ont passé à côté de l'alliance. Avec Noé, on vient de lire le texte, alors je ne vais pas le relire. Mais le peuple est devenu tellement perverti que Dieu se met en colère. Et vraiment, il est profondément déçu et profondément blessé par le refus du peuple et par le peuple qui faisait des faussetés, je dirais, par rapport à l'alliance. Hein? Et Dieu aime tellement son peuple qu'il va le châtier. Et il va le châtier par ce châtiment très dur, raconte la Bible ce que c'est textuel. On le saura en arrivant au ciel, hein. Mais quand même l'histoire le dit comme ça, Dieu décide d'anéantir sa création et le petit reste entre dans l'arche, le petit reste qui a été fidèle à Dieu. Mais Dieu après ça est tellement, le texte le disait, le Dieu est tellement, a souffert lui-même tellement du châtiment qu'il a donné à l'homme, qu'il jure que plus jamais il n'anéantira sa création. Et il donne le signe de l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est très beau, parce que l'arc-en-ciel, quand est-ce qu'il vient ? Il vient après la pluie et qu'il y a du soleil. Et c'est le signe qu'au fond, Dieu n'anéantira plus jamais sa création dans l'eau. Hein? Il y aura toujours le soleil qui va briller après la pluie. Donc plus jamais la création ne sera anéantie. Et c'est beau de voir ce signe de l'arc-en-ciel. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, l'arc-en-ciel arrive après la pluie quand il y a du soleil. Hein? Et puis, je prends comme ça un peu en vitesse, mais il faudrait pouvoir le développer. Il y a eu Babel. Hein? De nouveau, l'homme qui dit « Ah non, moi j'en ai assez de dépendre de Dieu. Nous voulons faire une tour qui va jusqu'au ciel et avoir nous-mêmes la maîtrise. » Et puis, l'histoire continue. Il y a Abraham. Et dans le cantique de Zacharie, que Marie-Thérèse nous a lu maintenant, il y a cette belle phrase, hein, « Serment juré à notre père Abraham. » Serment juré. Dieu s'engage par serment à venir tirer l'homme des ornières dans lesquelles il se met. Et puis il y a Isaac, il y a Jacob, il y a Moïse. Et Moïse qui est ce moment, la sortie d'Égypte qui est pour toute l'histoire du peuple hébreu, vraiment le moment clé où ils ont compris qu'ils étaient aimés de Dieu et que Dieu était avec eux et que Dieu les sauvait. Et tout au long de leur histoire, ils vont revenir à ce moment de la sortie d'Égypte pour se rappeler l'amour de Dieu. Et les prophètes vont les reprendre. Et toute l'histoire va le reprendre comme un moment fondamental où le peuple a compris cet amour de Dieu. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y reste fidèle. Hein? Après 400 ans d'esclavage, eh bien, Dieu libère le peuple et il l'attire au désert. Et déjà, alors qu'ils sont sortis de cet esclavage, hein, quand ils arrivent au désert, ils trouvent que c'est un peu long et ils se mettent à rechigner sur les cailles et la manne qu'ils doivent manger tous les jours. Et ils se rappellent les bons oignons d'Égypte dans lesquels on était si heureux et au moins on avait le ventre bien plein, mais on n'était pas libre, on n'était pas près de Yahvé. Mais ça, ils l'oublient. Hein. Tout le temps, le peuple, l'histoire du peuple, elle va comme ça. Et donc le peuple en a marre quand il est au désert et il rouspète contre Dieu. Et tellement bien qu'au moment où Moïse, alors que c'est un moment capital de leur histoire, hein, où Moïse est appelé au mont Sinaï et où Dieu lui donne les tables de la loi, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent le veau d'or. Mais Dieu les reprend et Dieu reprend son alliance inlassablement. Et il redonne les tables à Moïse. C'est comme si le péché qui rend l'homme malheureux, eh bien, comme si ce péché stimulait l'amour de Dieu et la fidélité de Dieu. Et Dieu est incessamment plus fidèle que l'homme qui tombe chaque fois dans le péché. Et ainsi, le peuple apprend qu'il est aimé. On pourrait continuer l'histoire, mais je n'ai pas le temps maintenant, hein. Mais avec le roi David, hein, avec ce haut moment du peuple qui est entré dans la terre promise, qui a reçu le fruit de la promesse, et qui a ce roi selon le cœur de Dieu, qui lui-même a fait quelques erreurs aussi, mais quand même, c'est un temps où le peuple est vraiment fidèle à Dieu. Et puis, il y a Salomon et les richesses. Et les richesses de nouveau viennent pervertir le cœur de l'homme. Salomon veut faire ses alliances à gauche et à droite, et avec toutes les femmes qu'il a, il leur permet de faire des temples dans la ville même de Jérusalem, des temples païens. Hein? Et Dieu ne peut pas supporter ça, parce que c'est vraiment l'infidélité à son alliance, où c'est lui l'unique Dieu. Avec les prophètes, l'alliance prend une autre coloration. Parce que les prophètes cherchent dans l'expérience humaine des comparaisons pour parler de l'alliance de Dieu et de son peuple. Et de cet inexplicable amour de Dieu qui sans cesse reprend son peuple. Et les prophètes vont parler de Dieu qui est père, qui est mère, qui est vigneron, qui est potier, qui est berger. Et tout doucement vient cette image de Dieu qui est époux. Vous voyez comme on avance d'un contrat bilatéral où l'homme s'engage et où Dieu s'engage à une relation qui est une relation d'amour et d'époux et d'épouse. Et Osée décrit l'alliance comme une histoire d'un amour qui est trompé. On connaît le texte d'Osée, et qui pourtant se recrée sans cesse et qui se recrée par la volonté de Dieu. Et au chapitre 2, il dit « Je te mènerai au désert » parce que le désert, c'est le lieu de la rencontre. « Et je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi dans la justice et le droit qui sont les conditions de l'alliance. » S'il te plaît, pratique la justice et le droit. Et de ma part, dans la grâce et la tendresse, je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras Yahvé. Tu connaîtras dans le sens profond que dit la Bible de cette union fondamentale d'époux et d'épouse. Et Ézéchiel et Jérémie comprennent aussi que Dieu aime son peuple comme un époux aime son épouse. Et même l'épouse quand elle est infidèle. C'est un amour passionné et jaloux de Dieu vis-à-vis de son peuple. Et en contrepartie, eh bien, Dieu reçoit trahison et ingratitude. Mais rien ne le décourage. L'amour de Dieu ne se laisse jamais vaincre par le péché, même sur la croix. Il pardonne et recrée Israël avec un cœur nouveau, capable d'aimer. Et dans Isaïe, il dit « Ton époux sera ton créateur. » Dans un débordement de fureur, comme au déluge, « Un instant, je t'avais caché ma face, mais dans mon amour éternel, j'ai pitié de toi, dit Yahvé, ton rédempteur. » Cet amour qui revient inlassablement. Et c'est un amour, on le voit donc, qui est vraiment gratuit dans toute sa dimension. Et gratuitement, Dieu vient sortir chaque fois le peuple des ornières dans lesquelles il se met lui-même. Et c'est vrai qu'il tombe et il se laisse prendre par toutes les tentations de l'argent, du pouvoir. Et chaque fois, Dieu vient le sortir, mais c'est souvent par l'épreuve. Après l'exil, quand on est revenu à Jérusalem, Israël, au fond, quelque part, a été purifié par l'épreuve. Et de plus en plus, Israël découvre que sa vie d'alliance est un dialogue avec Dieu, un dialogue d'amour. Et la dimension qu'on trouve après l'exil, c'est que ce n'est plus seulement l'alliance avec le peuple, mais c'est une alliance avec chacun. C'est chacun du peuple qui vit cette alliance avec Dieu. Et il découvre la dimension personnelle de l'amour de Dieu. Vous voyez cette progression, et on arrive à cet amour personnel. Et c'est au fond, on trouve ça, cette expression-là, surtout dans le Cantique des Cantiques, qui est une parabole de l'amour de Dieu entre sa créature. Ce n'est plus seulement le peuple, c'est le peuple aussi, mais c'est chacun des membres du peuple. Et la parole de l'époux, de l'épouse à l'époux, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Et elle fait écho à la promesse que du temps des prophètes et de Moïse, Dieu avait fait « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Et maintenant c'est « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Donc, le cantique de cantique, cette époque-là, après l'exil, nous révèle un amour de tendresse et d'intimité étroite et ardente entre le Créateur et chacune des créatures. Et puis, je vais un peu vite, je suis vraiment honteuse d'aller si vite, hein, mais on arrive à Jésus, vous voyez que le terrain est préparé et que Dieu a éduqué son peuple pour arriver à cette alliance personnelle, parce que Jésus, il est Dieu et il est homme. Et alors, en Jésus, nous avons cette alliance, ce oui que Dieu fait à l'homme, hein, l'engagement que Dieu fait à l'homme, mais nous avons aussi en Jésus cette réponse parfaite, hein, de l'homme à Dieu. Et c'est pour ça que cette présence de Jésus, elle arrive à ce moment de l'histoire où l'Alliance a préparé le terrain et où en Jésus se vit les deux parties de l'Alliance, ce don et ce retour total d'un amour qui n'a aucun retour sur lui-même et qui est aussi gratuit que l'amour de Dieu, puisque Jésus est Dieu lui-même. Et un jour, quand j'étais à Joigny, et je donnais une retraite individuelle à un retraitant, et il méditait la passion et la mort de Jésus. Et il est revenu en me disant, d'une figure illuminée alors qu'il méditait la passion, en me disant, j'ai vu le ciel ouvert et Jésus en croix, et le ciel suspendu à est-ce qu'il va aimer jusqu'au bout? Est-ce qu'il ne va pas avoir un retour sur lui-même? Est-ce qu'il va être don total? Et puis, le cri de joie accueillant Jésus au moment de sa mort au ciel, il a gagné, il a aimé jusqu'au bout, il a été la réponse pleine à l'amour de Dieu. C'est beau, hein? Il avait vraiment reçu, je crois, la grâce de comprendre cet amour totalement gratuit de Jésus, qui est l'image parfaite de l'amour de Dieu. Et là, en Jésus, Jésus, à cause de ça, il est l'Alliance. Il l'est lui-même, il est ce don de Dieu aux hommes, et il est cette réponse parfaite de l'homme à Dieu. Bon. Donc, voilà. Oui, et cet amour-là, hein, depuis déjà le temps de Jésus, et je crois à travers toute l'histoire, c'est un amour qui nous a fascinés et que nous voudrions bien refaire aussi et revivre aussi, mais dans notre faiblesse. Hein. Et déjà dans l'Évangile, quand on voit Pierre qui dit à Jésus, au moment où Jésus leur demande « Qui dit-on que je suis ?» et puis il leur dit « Mais qui dites-vous que je suis ?» Non, c'est pas ce moment-là. C'est après la multiplication des pains où on dit, bon, c'est beaucoup trop fort, ces paroles, et beaucoup de gens le quittent. Et alors Jésus leur demande aux disciples, et vous, est-ce que vous voulez aussi me quitter? Et alors Pierre a cette réponse qui est tellement belle, où il dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Toi seul es cette réponse totale de l'amour à l'amour du Père. Hein? Jésus qui vient du cœur de la Trinité, qui vient dans notre humanité et qui retourne à Dieu. Et puis alors, les soldats qui viennent arrêter Jésus, qui sont aussi subjugués par la parole de Jésus et qui reviennent en n'ayant pas arrêté et qui disent « Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Non? On n'a jamais entendu ça. On n'a jamais vu un tel amour. Et alors, le dernier témoignage de Jésus qui meurt en croix, hein, hein, qui correspond à ce que je vous disais de mon retraitant là. Vraiment, pour mourir de cette manière-là, cet homme, il était fils de Dieu. Et quelque part, c'est pour cet amour-là que nous sommes faits. Et cet amour-là nous attire. Hein. Mais nous avons tout le temps à recommencer. Mais vous voyez comment le thème de l'alliance qui parcourt toute la Bible est parti de ce pacte qui est d'abord modelé sur une alliance politique et militaire et qui devient cet amour personnel, cet amour reçu et cet amour rendu. Et c'est dans cette ligne-là, je dirais, que nous pouvons insérer l'expérience de Josepha et de tous les mystiques d'aujourd'hui, hein, que ce soit Thérèse d'Avila, que ce soit Jean de la Croix, dont le texte est à l'envers de votre feuille, là, que ce soit la petite Thérèse. Hein, c'est chaque fois cette réponse de quelqu'un qui est profondément attiré par cet amour de Dieu et qui répond comme il peut, hein, avec ses faiblesses, mais qui se laisse, je dirais, porter et monter, parce que la distance entre Dieu et nous, elle est tellement énorme qu'il faut que Jésus, par sa mort sur la croix, par l'union qu'il nous demande de vivre avec lui, nous mène et nous amène, je dirais, hein, à vivre l'union à Dieu. Voilà. Et au fond, ce n'est pas seulement pour Josepha et c'est pas seulement pour les mystiques. C'est pour chacun de nous. Mais c'est pour chacun à notre mesure. Hein? Nous ne sommes pas appelés à avoir des lévitations comme Thérèse d'Avila ou à souffrir même comme l'a fait la petite Thérèse de Lisieux. Mais nous sommes appelés pour notre bonheur, parce que je leur ai dit, hein, Dieu veut notre bonheur dans cette alliance, parce que son image, elle est au fond de nous, et que ce n'est que quand nous rejoignons cette image au fond de nous, que nous sommes pleinement en paix. Il y a quelqu'un, il y a quelques jours, qui me disait qu'il souffre beaucoup et qu'il y a beaucoup de difficultés avec les autres autour d'elle, et elle me disait, et je lui avais fait vraiment un petit sermon sur la passion, en lui disant, mais est-ce que tu suis Jésus et un Jésus crucifié? Est-ce que tu l'aimes au point de le suivre jusque-là? Et hier, elle m'a téléphoné en me disant, eh bien, je suis en paix depuis 2 jours. Alors, peut-être que la grâce agit et que la grâce l'amène à se donner à Dieu et à répondre à cet amour par le don total. Hein? Mais c'est à ça que nous sommes appelés. Et c'est pas de la petite... c'est pas des petites choses, c'est vraiment un appel grand et un appel beau pour notre bonheur. Voilà. Alors Maria Teresa, tu continues avec Josepha. Comment Jésus a vécu ça? Mais en se rappelant bien que c'est l'expérience de tous les mystiques. Et nous avons la chance dans la congrégation d'avoir cette mystique qu'est Josepha. Et c'est pour ça que nous aimons bien vous en parler. Ouais.